Dans la grande table des idées aujourd'hui, nous parlons d'un ouvrage collectif aux éditions de la Découverte. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Plus de deux siècles d'histoire des féminismes qui débute en 1789. Une histoire internationale, intersectionnelle, hétérogène et complexe. Trois historiennes, Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michèle Zancarini-Fournel, ont eu à cœur d'en proposer une lecture à la fois scientifique et accessible, riche de documents, de revues et des nouveaux travaux de recherche. La focale déplacée met à jour une histoire des féminismes renouvelé, intégrant l'histoire coloniale et celle des minorités, notamment états-uniennes. Un combat mondial qui se poursuit aujourd'hui autour de ce qu'elle nomme le moment MeToo et la question des violences sexuelles. Pour évoquer ces questions, nous recevons l'une des autrices, Florence Rochefort. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chercheuse au CNRS, spécialiste des mouvements féministes sous la Troisième République et du lien entre féminisme et laïcité. Vous êtes aussi l'auteur du Que sais-je sur l'histoire mondiale des féminismes. Alors, d'abord, pourquoi cet ouvrage collectif et quel bénéfice de pouvoir enfin revisiter même vos propres travaux, c'est-à-dire avoir le bénéfice à la fois de la nouveauté et de l'histoire des travaux.
Mais c'est une envie qui nous est venue à mes deux collègues, Bibia Pavard, Michèle Zancarini et moi-même, à la suite d'un séminaire pédagogique à l'École des hautes études que nous menions sur socio-histoire des féminismes. Et cela nous a donné envie de partir à partir de ces différents récits et aussi de l'interpellation des étudiantes et des étudiants à partir de ce qu'on leur racontait. Et on a eu envie d'en faire la synthèse et de raconter cette histoire des féminismes d'une autre façon. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Mais c'est une histoire dans laquelle on a voulu inclure et étendre à des figures nouvelles dont on parle peu ou que nous-mêmes ne connaissions pas il y a encore quelques années.
Vous dites approche socio-historique, ça veut dire que vous avez justement utilisé tout ce champ-là de la recherche dans vos travaux ?
Alors socio-historique, c'est une méthodologie qui part des questions d'aujourd'hui pour en faire la généalogie dans le passé, mais ça n'est pas pour plaquer des concepts d'aujourd'hui sur le passé, c'est plutôt au contraire de comprendre comment les discussions d'aujourd'hui, alors notamment l'intersectionnalité, on y reviendra, ont des antécédents et comment est-ce que dans l'histoire on peut trouver des éléments de réflexion pour aujourd'hui.
Alors avec une recontextualisation, on va d'abord revenir sur ce terme de féminisme dont vous nous apprenez aussi l'origine. Vous démarrez en 1789, ça n'était pas évident de prendre ce début-là, Florence Rochefort, puisque le terme même n'existait pas encore. Alors pourquoi 1789 ? Parce que le féminisme accompagne d'une manière ou d'une autre la Révolution ?
Tout à fait. Et puis, nous avions choisi d'avoir un angle politique, donc féminisme et politique comme angle principal. Donc, effectivement, le mot n'existait pas. Il apparaît en 1872 sous la plume d'Alexandre Dumas fils, d'ailleurs de façon dépréciative, ce qui est assez ironique. Mais ça fait quelque temps que les historiennes et les historiens s'en sont emparés rétroactivement. Et évidemment, tout en contextualisant, tout en expliquant ce que signifient les mots, parce qu'on retrouve toujours comme objectif l'égalité des sexes, la liberté des femmes, la remise en cause de ce que nous appelons aujourd'hui les normes de genre ou les normes de féminité et de masculinité, et puis toutes sortes de préjugés misogynes. Donc les féminismes sont des réponses déjà à des cultures misogynes très, très profondes. Donc ce mot peut être utilisé rétroactivement à condition de définir ce dont on parle. Et 1789, ça s'imposait par rapport à notre choix des liens avec le politique et aussi d'une dynamique collective. C'était un peu l'option que nous avons privilégiée.
Donc au milieu de la dynamique de libération, il y a la question des femmes. La question étant plutôt celle des droits, à ce moment-là, des droits civils qui se posent. Pourtant, ils n'arrivent pas encore à ce moment-là.
Oui, alors ça, sous la Révolution française, c'est aussi beaucoup les droits politiques, avec Colomb de Gouges qui rédige cette déclaration des droits de la femme en miroir de la déclaration des droits de l'homme pour souligner que les femmes sont exclues justement des droits politiques. C'est aussi les droits civils, mais sous la Révolution française, on leur accorde en 1792 des droits civils, mais en revanche pas des droits politiques. Et je pense qu'il faut nuancer un tout petit peu quand on voit ces premiers moments de révolution et autour de la question des femmes. Ça n'est pas que le droit, c'est aussi lutter contre les préjugés. Et puis, par exemple, Olympe de Gouges s'intéresse au mariage, elle propose un contrat civil, et d'ailleurs le mariage va devenir un contrat civil à ce moment-là, avec la possibilité de divorcer, la possibilité de reconnaître les enfants naturels. Donc il y a, voilà, à chaque fois le politique est quand même relié au privé dès qu'on est dans une perspective féministe. Et puis c'est aussi la lutte contre le fait qu'on disait toujours que les femmes étaient incapables d'innovation, incapables d'accéder au savoir, incapables d'être peintres, artistes, sauf à quelques exceptions près, qui correspondaient à une société aristocratique dont on ne voulait plus.
Alors il y a aussi d'ailleurs le regard féminin que justement vous rapportez à chaque étape. Alors il y a des grandes figures comme celle de Condorcet, figure majeure. Alors vous rapportez les deux regards, hein, celui en opposition et celui qui sert les causes féministes différentes.
On n'a pas du tout exclu les hommes de ce récit, même s'ils sont une minorité, mais ils ont toujours eu un rôle important. D'abord parce qu'il y avait des hommes absolument convaincus de l'égalité des sexes, donc Condorcet que vous venez de citer et quelques autres, mais ils sont rares. Et par ailleurs, ils ont la place aussi d'alliés. Ils sont des alliés indispensables puisque c'est eux qui sont au Parlement puisque les femmes n'avaient pas le droit d'y être. Donc il y a à la fois, disons, une option convictionnelle dans laquelle ils sont évidemment, ils peuvent être partie prenante même s'ils ne sont pas majoritaires. Et par ailleurs, ils sont des alliés dans la presse, dans tous les lieux de pouvoir. Donc tout au long aussi du 19e siècle, les hommes féministes ont un rôle spécifique à jouer dans l'histoire de la mobilisation des femmes pour leur liberté, pour leurs droits.
Alors avec quelque chose de très intéressant, vous soulignez que l'idée de féminité au XVIIIe siècle notamment, elle est très séduisante y compris pour les femmes et donc il va falloir lutter contre cette idée même qui finalement a quelque chose d'attrayant.
Bien sûr, parce que les féministes mettent en avant l'idée d'une catégorie femme. On parle au nom des femmes, mais en fait, c'est une catégorie politique. C'est une catégorie dans laquelle on va vouloir, enfin, pour laquelle on va vouloir se battre pour l'égalité. Mais c'est une catégorie qu'on invente, parce que toutes les femmes sont loin d'être féministes et sont loin de se rallier à cette cause. Donc, on va s'adresser à elles pour essayer de les convaincre et on va aussi constater que beaucoup d'antiféministes sont aussi des femmes, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on leur dit en face ? On leur dit qu'elles n'ont pas à faire de la politique, que leur vraie identité féminine, c'est la séduction, c'est la famille, c'est la maternité, qu'elles sont intrinsèquement différentes et que par conséquent, si elles allaient vers l'égalité, elles perdraient quelque chose. Elles perdraient leur féminité, elles perdraient leur identité et elles perdraient, ça c'est vraiment un poncif, leur pouvoir de séduction, donc elles perdraient aussi du pouvoir. Donc il y a toujours cette dialectique. Et ce que relève Condorcet de façon assez ironique, il dit « mais Rousseau a beaucoup plus de succès que moi parce qu'il leur parle de l'empire, de leur empire, c'est-à-dire leur pouvoir de séduction, il leur parle de leur nature ». Et là, il y a aussi toute cette...
Une sorte de déconstruction à faire.
Voilà, et aussi du discours philogyne. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le discours misogyne, là, elles sont toutes des malfaisantes qui nous ont chassées du paradis et qui prétendent pouvoir être égales alors qu'elles sont foncièrement inférieures. Mais il y a aussi le discours de elles sont formidables, elles ont des qualités intrinsèques, mais surtout ne partageons pas le pouvoir avec elles.
Alors il va y avoir cette idée qui va courir tout au long aussi du 19e siècle. Alors vous êtes attaché à cette idée des clubs de femmes d'abord, les clubs de femmes qui sont aussi des mouvements populaire, le féminisme, il est trimballé entre des univers bourgeois et des univers populaires, avec comme ça des allers-retours, Florence Rochefort.
Oui, tout à fait. Et on a voulu inclure justement dans notre définition, pas seulement un féminisme intellectuel, théorique, on a voulu y inclure aussi des mouvements populaires qui réclament de façon assez spécifique aussi leur rôle de citoyenne active, puisqu'elles sont dans la rue, elles sont dans les clubs, et elles vont en être exclues. Et c'est donc, elles sont incluses dans notre récit parce qu'elles parlent en tant que femmes pour réclamer parfois leurs droits, le droit de porter des armes ou le droit à certains métiers par exemple. Mais c'est aussi le droit tout simplement d'être reconnue comme citoyenne, comme révolutionnaire, comme participant à la révolution. Et là, ça nous, voilà, c'était un parti pris d'avoir une définition suffisamment large pour montrer qu'à certains moments, l'enjeu de ces féminismes, c'est aussi d'être reconnue comme actrice de l'action politique en train de se mener, qui est à l'origine de ces prises de parole féministes.
Et là, on va voir des grandes ambivalences du côté de l'extrême gauche, de la gauche, des partis révolutionnaires. Il va y avoir, alors la figure que vous travaillez beaucoup, c'est celle aussi de Proudhon, anarchiste très antiféministe. Il va y avoir toutes ces caricatures au 19e siècle et ces promesses, au fond, faites aux femmes plus tard, qu'elles seront des combats révolutionnaires. Mais en réalité, la question des droits des femmes devient toujours une question secondaire, presque une question bourgeoise.
Oui. Alors à la fois, elles participent à ces moments révolutionnaires, c'est notre première partie, ces émergences qui sont favorisées par ces moments révolutionnaires.
Je veux bien que vous parliez un peu de Proudhon, justement, qui tient une place importante.
Et un des paradoxes, c'est que justement, ceux qui seraient éventuellement les plus proches de leur combat, sont parfois les plus hostiles. Alors Proudhon, le père de l'anarchie, est un de ceux qui donc défend l'égalité sociale, loin de l'État et à travers des coopératives, qui est une figure très importante en 1848, et qui va prendre vraiment en grippe les féministes en étant particulièrement injurieux. Et dans ses œuvres posthumes, on trouve quelques clés de cette haine, non seulement des féministes, mais des femmes, qui revient à une sorte d'allergie totale à, disons, au commerce avec les femmes, y compris sexuelles, une haine vraiment viscérale du sexe féminin, du corps des femmes et de leur présence dans l'espace public et encore plus dans l'espace politique. Donc Jeanne de Rouen, qui est une des actrices phares de ce féminisme de 1848, qui elle articule aussi race, classe, sexe et qui est une figure très attachante et très créative au niveau politique, va être la risée de Proudhon. Et finalement, peu de ses collaborateurs vont oser le contrer sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il est un peu un porte-parole qu'on ne contredit pas dans sa misogynie par rapport aux autres alliés socialistes. Et puis va s'élaborer cette idée après avec le marxisme, de contradiction principale, contradiction secondaire. Et là, ces mouvements féministes, disons, de sensibilité révolutionnaire et égalitaire, vont être sans cesse repoussés à un avenir futur. Votre sort sera définitivement réglé une fois que la révolution aura triomphé.
On a le sentiment, à la lecture justement de cet ouvrage, vaste ouvrage, qui utilise des documents, des extraits de revues, on a le sentiment qu'il y a eu de nombreuses trahisons politiques des mouvements féministes, de nombreuses promesses non tenues. Et ce soupçon que ce sont justement des causes bourgeoises. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette idée-là ?
Oui, on trouve cette opposition assez vite entre bourgeoises et ouvrières. Alors, il y a deux façons de les aborder historiquement, parce qu'il ne faudrait pas nier qu'il y ait effectivement des différences d'appartenance à des catégories sociales et à des classes et des contradictions internes. Et c'est pour ça que nous avons aussi voulu mettre un S à féminisme, pour ne pas noyer ces contradictions. Au contraire, montrer que ça fait partie des dynamiques féministes. Et puis, il y a la façon dont c'est reçu et utilisé et malmené par les adversaires qui sont, vous voyez bien, puisqu'il y a des bourgeoises, jamais elles ne pourront être alliées avec des ouvrières, elles vont forcément trahir votre cause. Et là, ça devient vraiment une catégorie dans laquelle on ne peut jamais, on ne peut jamais échapper à sa condition de bourgeoise, donc on ne peut jamais s'allier avec des ouvrières, donc on ne peut jamais militer pour des droits communs.
Alors en même temps, on voit que cette histoire, elle a beau être hétérogène, il y a toujours une sorte de continuité, même dans les combats d'aujourd'hui. On retrouve les racines de thématiques qui ont émergé, alors pour les derniers combats qui ont émergé dans les années 70, dans ceux du 19e, on retrouve les prémices de la révolution. Il y a toujours ce fil qui relie les féminismes entre eux, Florence Rochefort.
Il y a toujours ce fil parce qu'il y a toujours une société inégalitaire qui, pendant extrêmement longtemps, règle la vie très quotidienne des femmes et empoisonne la vie très quotidienne des femmes et leur interdit l'accès à l'éducation, puis ensuite l'accès à l'université, puis ensuite l'accès aux professions libérales. Donc à chaque fois, c'est un combat pour pouvoir être des citoyennes à part entière. Donc le fil commun, c'est déjà qu'on est opposé aux inégalités, opposé aux discriminations, opposé à des préjugés qui sont énoncés ou au contraire implicites, qui font qu'elles n'ont jamais droit à la parole ou que leur parole est dévalorisée ou que finalement elles ne seront jamais suffisamment représentées telles que les féministes le souhaitent.
Alors on va écouter, on a fait un petit montage entre une archive au RTF de Delphine Seyrig du 30 septembre 72 et puis d'une intervention plus récente d'Alice Coffin dans La Midinale le 13 octobre dernier.
La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
C'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet, c'est vraiment pas une question d'orientation sexuelle. Et c'est intéressant parce que moi, c'est des propos que j'avais tenus avant sur le fait qu'on m'avait demandé dans National Geographic, vous donneriez quoi comme conseil à une jeune femme de 20 ans? J'avais dit, soyez exigeante, devenez lesbienne. Ou au moins, apprenez à vous passer du regard des hommes. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est davantage un positionnement qui, effectivement, est important pour tout féminisme. C'est-à-dire que pour être capable de raisonner, pour être capable de monter des stratégies, pour être capable de résister, il faut à un moment échapper à cette chape, en fait, du regard masculin.
Alors, ce qu'on entend, Florence Rochefort, c'est que de Delphine Seyrig à Alice Coffin, la continuité que l'on trouve, c'est effectivement la question du regard et de ce positionnement féminin par rapport au regard.
La question du regard, la question de l'autonomie aussi, et dans Delphine Seyrig, je retiens aussi la thématique du travail, parce qu'elle est absolument fondamentale. Là aussi, c'est un fil conducteur. La possibilité d'avoir une indépendance économique, c'est pour de la Révolution française à nos jours, ça reste quelque chose d'absolument essentiel. C'est la première étape de l'autonomie. Et puis ensuite, il y a la qualité de sujet. Alors là, Simone de Beauvoir a écrit des choses magnifiques dans Le Deuxième Sexe, en 1949, sur la subjectivité, et comment est-ce que le deuxième sexe était toujours l'autre, donc toujours dans le regard de l'autre, et donc n'avait pas d'existence propre. Et comment il fallait aussi acquérir cette autonomie, donc d'abord financière, mais ensuite d'une subjectivité. Et là, c'est ce que souligne très bien Alice Coffin dans cet extrait, c'est que si on n'est qu'un miroir, si on n'est qu'un regard, si on n'est qu'une projection du désir masculin, on ne peut pas être autonome et réaliser sa subjectivité.
Alors, ce qui est étonnant, c'est dans ce voyage à travers les époques, puisque là quand même on parcourt plus de 2 siècles et puis c'est une histoire mondiale que vous reprenez, ne nous libérez pas, on s'en charge. On retrouve aussi cette idée du corps et du plaisir, et vous avez fait tout un travail sur les Saint-Simoniennes où on voit que c'est un mouvement politico-religieux, finalement cette question du corps elle apparaît, et elle apparaît aussi sous la forme d'expériences qui sont faites dans la foulée de ce mouvement.
Oui, alors c'est une expérience très particulière de 1830, dans le sillage donc de cette nouvelle religion saint-simonienne qui, après les échecs de la Révolution et de la Terreur, essaye de reconstituer un lien à travers le politico-religieux et le théologique. Beaucoup de femmes vont se retrouver séduites par cette proposition utopique parce que on leur donne un certain rôle, et aussi un rôle dans l'avenir pour trouver une mère à côté d'un père. Donc c'est une religion qui serait tout à fait inclusive. Mais toujours, en fait, dans la réalité, les pères du saint-simonisme excluent les femmes, et du coup, elles s'organisent elles-mêmes, et elles vont réfléchir à cette proposition qui est minoritaire dans le saint-simonisme, mais qui est portée par Enfantin, autour du plaisir, de l'amour libre, et de la découverte du plaisir. Et là, on a une parole des femmes dans leur journal, parce qu'elles vont fonder elles-mêmes un journal non mixte pour exprimer leur point de vue. On découvre une parole tout à fait intéressante et tout à fait original pour le 19e siècle, sur leur rapport à l'amour, au choix du conjoint, mais aussi au plaisir physique et au plaisir sexuel, qui est quelque chose de très rare dans la parole des féministes. Mais d'ailleurs, ce sera très rare ensuite, parce que les Saint-Simoniennes seront toujours accusées à ce moment-là d'immoralité.
De frivolité.
Et de... Peut-être moins de frivolité que
d'immoralité,
d'avoir été immorale et peu vertueuse. Et celles qui ont essayé, donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'elles n'étaient pas toutes d'accord. Il y en a quelques-unes pour qui c'était dans l'avenir, et d'autres qui ont essayé ces amours multiples et qui se sont retrouvées, fille-mère avec plusieurs enfants de pères différents, qui n'assumaient pas forcément les charges, ce que d'ailleurs elle souhaitait aussi elle-même, de pouvoir assumer seule.
Certains mais qui ont payé le prix cher.
Voilà, et elle paye un prix cher de ses expériences, mais en même temps, pour nous historiennes ou pour nous femmes d'aujourd'hui, c'est absolument émouvant de suivre leur parcours, leur courage, vouloir affronter son désir de liberté jusqu'au bout. Avec une énergie et une critique de ce qu'étaient les rapports hommes-femmes de l'époque.
Un siècle avant que ces droits puissent être vraiment acquis et qu'il y ait des méthodes de contraception.
Soy una mujer capaz. Soy una mujer de paz. Soy una mujer atrás, soy una mujer rapaz. Soy una mujer veraz, soy una mujer te vas. Soy una mujer tendrás. Soy hombre también, soy hombre de bien. Soy hombre, soy quien soy. ¿Quién hoy? Hoy, ¿quién soy? Soy alma rara para agarra. Soy alma extraña. Soy alma rara para agarra. Soy alma extraña, araña, una hazaña. Soy yo, soy el niño que da cariño. Soy yo, soy la niña, vino de la viña. Soy la vida, ida, ida. Soy la vida, ida y vuelta. Soy el niño que da cariño. Soy yo, soy la niña, vino de la viña. Soy la vida, ida, ida. Soy la vida, ida y vuelta. Soy hombre también, soy hombre de bien. Soy hombre, soy quien. ¿Quién soy? ¿Quién hoy?
Soy una mujer de jour, l'album Sangria sorti le 13 novembre dernier.
La grande table. Maïlys Besserie.
Toujours avec Florence Rochefort, on parle de « Nous ne nous libérez pas, on s'en charge » aux éditions de La Découverte. Il y a aussi un travail de fait très conséquent sur l'intersectionnalité, Florence Rochefort, justement à travers cet ouvrage collectif, notamment les enchevêtrements théoriques qu'on a pu retrouver et des personnalités mises en avant de pionnières, notamment je pense à Hubertine Auclert et à d'autres, pour parler de l'Algérie, de ce qui se passe dans les colonies. Même si vous parlez de féminisme colonial, peut-être il faut préciser ce terme.
Oui, l'intersectionnalité, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, moins comme une option théorique qu'on voulait développer d'un point de vue théorique, mais plutôt comment s'emparer de cette passionnante question de l'enchevêtrement des dominations pour inclure cette perspective dans notre récit. Donc déjà, ça nous a permis de mettre un accent sur l'anti-esclavagisme, sur l'importance des liens entre féminisme et antiracisme dès la Révolution française et même dès le XVIIIe siècle. Et puis ça nous nous a permis aussi d'inclure de nouvelles figures, notamment beaucoup d'éléments sur des femmes dans les colonies et sur des femmes noires et des femmes antillaises qui, en général, n'avaient pas leur place dans les récits d'histoire du féminisme, mais aussi tout bonnement parce qu'on ne les avait pas étudiées. Donc, on a beaucoup bénéficié de travaux aussi de collègues. C'est un travail à la fois de recherche, mais aussi de synthèse, de travaux qui nous ont permis d'avoir ce récit inclusif.
Et alors, pour lutter aussi contre l'oubli, l'amnésie historique qui n'a retenu, alors notamment je pense à la pensée de la négritude, que des noms d'hommes, alors même que vous parlez des sœurs Nardal et vous rétablissez aussi ces portraits de femmes oubliées.
Oui, ça aussi, elle est, disons, un peu sous l'impulsion des afroféminismes ou des black féminismes qui nous ont incités à inclure, à élargir la focale et à y mettre ces pionnières de la pensée de la négritude et qui elles-mêmes ont cette analyse de la conscience de race. Elles parlent de conscience de race, de conscience raciale, et en même temps elles sont conscientes d'être des femmes aussi et des femmes de couleur dont elles disent mais nous n'avons pas, elles sont étudiantes à la Sorbonne, nous ne sommes jamais à égalité avec les femmes qui ne sont pas de couleur. Donc il faut bien que nous ayons une conscience de race, et nous on ajouterait une conscience de genre, même si le terme n'existait pas de cette façon-là.
Alors comment est-ce que vous pouvez justement nous parler de la manière dont ces deux histoires, cette histoire de différentes oppressions, s'est finalement toujours croisée dès la fin du XVIIIe siècle? Vous voyez apercevoir ces deux courants comme des courants similaires?
Oui, parce qu'en fait... l'histoire de l'émancipation, l'histoire de la critique de l'oppression, les féministes s'inspirent et sont même partie prenante pour la plupart du combat contre l'oppression des Noirs et contre l'esclavage. C'est quelque chose qui fait peut-être plus consensus que l'exploitation du prolétariat, où là il y aura plus de différences entre des courants libéraux et des courants socialistes. Mais il y a vraiment de grandes affinités théoriques et beaucoup d'inspiration des penseurs utopiques. On a parlé des Saint-Simoniens, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui irrigue constamment les féminismes. Et on avait peu étudié l'importance de la pensée de la négritude, mais pourtant, c'est quelque chose de... D'abord, on trouve des femmes à l'origine de cette pensée, et ensuite, ces femmes ont une conscience d'être des femmes de couleur à l'intérieur d'un mouvement, et même d'avoir été les inspiratrices des grands penseurs de la négritude et d'avoir été un peu évincées parce qu'elles étaient des femmes.
Alors pourquoi évincées? Est-ce qu'on finalement les travaux universitaires sur ces questions-là ont suivi justement cette dynamique d'effacer ces portraits-là de l'histoire? Est-ce que on a des explications à cette question?
L'explication, elle est déjà sociologique, c'est-à-dire que les femmes avaient peu d'accès à des postes de pouvoir ou des postes importants où on est la plume qui va marquer l'histoire, et les hommes, et ça voilà, ça fait partie de ce qu'ont bien analysé les féminismes, les hommes ont tendance à toujours écrire un récit au masculin et avoir toujours les femmes éventuellement dans un champ d'horizon autre.
Donc Hubertine Auclert, elle va parler, elle va écrire, elle va même très bien écrire.
Alors Hubertine Auclert, elle est un peu particulière parce qu'elle représente ce dont vous parliez tout à l'heure, ce féminisme colonial. À la fois, elle est une pionnière pour penser les inégalités dont sont victimes les femmes arabes dans l'Algérie de 1888-1889. Donc, elle est un moment très particulier du code de l'indigénat et d'énormes inégalités qui touchent toute la population dite indigène. Donc, elle a cette arabophilie, on parle d'arabophobe à l'époque, hein, elle a cette arabophilie, et elle comprend la condition des femmes, mais en même temps, pourquoi c'est un féminisme colonial, parce qu'elle est dans une perspective coloniale qu'elle ne veut absolument pas remettre en cause. Elle pense juste qu'on peut faire une colonie juste et une colonisation juste grâce à l'égalité républicaine.
Et au droit de vote, notamment.
Le droit de vote, notamment pour les hommes indigènes, et l'accès à l'éducation pour les femmes arabes.
Donc finalement, cette question de l'intersectionnalité, elle est compliquée, parce que quand vous reprenez par exemple en France, parce que le livre est surtout sur la France et l'Empire, on voit par exemple qu'il est compliqué de faire partie du Parti communiste et en même temps d'avoir un engagement féministe. C'est compliqué, la double appartenance. Donc ces luttes-là, elles sont sœurs, mais elles sont voisines. Elles ne sont jamais mélangées complètement, jusqu'à une certaine époque qui est beaucoup plus récente.
Oui, et on revient toujours au fait que les féminismes sont aussi une réponse. Elles sont une réponse à l'exclusion. l'exclusion, notamment de l'agenda des partis politiques, qui, quand ils vont voter le principe de l'égalité des sexes, n'en feront pas une question du tout prioritaire. Donc, c'est à la fois, il y aura une réponse avec l'idée, et puis des féministes qui vont être sincèrement engagés dans ce type de parti, mais qui seront très vite muselés et qui sont amenés à choisir vraiment entre rester et à ce moment-là se taire sur la question féministe ou du moins l'édulcorer énormément ou alors partir. Donc le double engagement, il était souvent le fait de femmes qui voulaient l'indépendance, rester dans des mouvements féministes indépendants et qui essayaient de rester dans les mouvements notamment socialistes ou communistes, mais qui souvent n'avaient pas vraiment de perspective et devait à un moment donné choisir.
Alors l'ouvrage va jusqu'à nos jours. Avant de parler de ce que vous appelez le moment MeToo, je vous propose d'écouter Virginie Despentes. C'est extrait du podcast Les couilles sur la table et c'est l'épisode Meuf King Kong du 11 septembre 2019.
C'est vrai que ces 15 dernières années, elles ont été vraiment décisives, non ? Beaucoup de choses ont changé. Il y a 15 ans, on pouvait encore en France en tout cas, c'était pas le cas dans tous les pays, mais en France, se dire que le féminisme, ça s'était passé. Ça s'était fait, c'était très bien, qu'on n'en avait plus besoin et que plus personne n'avait envie d'en entendre parler. C'était vraiment une conviction sincère, par exemple, auprès de certaines personnes chez Grasset. Ça leur paraissait coulé de source. On n'allait pas revenir 750 fois sur cette histoire du féminisme, quoi. Et c'est vrai que ça a été quelque chose en France d'assez fort, il me semble, pendant une décennie, les années 90. On a traduit très peu de textes de ce qui arrivait des États-Unis. On s'est posé peu de questions dans les médias traditionnels, en tout cas, parce que ça, c'est un temps avant Internet. Donc, du coup, sur la quatrième de coup, si mes souvenirs sont bons, c'est post-féministe, après quelques négociations. Parce que moi, il me semblait quand même que, ayant fait le film Baise-moi, qu'il y avait encore quelques personnes qui avaient envie de discuter de quelques thèmes féministes, sur lesquels on n'était en plus pas toujours d'accord, donc on avait vraiment envie d'en discuter, quoi. Parce que c'est vrai qu'aussi à ce moment-là, c'est un moment, il faut vraiment se souvenir pour des gens, je crois, qui ont moins de 35, 40 ans, qu'il y a eu un moment où il y a eu un monde sans Internet. Donc il y a eu un monde, une ville, par exemple, comme Paris, où il était très difficile de trouver les textes féministes qui nous intéressaient, où il fallait vraiment aller les chercher dans certaines librairies, dans certaines bibliothèques de particuliers, il fallait rencontrer les bonnes personnes, parce que les textes étaient non seulement pas traduits, mais en plus, on ne les trouvait pas physiquement, quoi. Et on ne savait même pas non plus comment s'orienter ou chercher quoi. Donc c'était vraiment cette histoire de la quête du texte féministe, par exemple de découvrir Annie Sprinkle ou Camille Paglia, ou découvrir ça, c'était vraiment aller chercher avec les dents.
Enfin, on se rechoir, si vous pensez de ce qui vient d'être dit, vous qui avez ouvert le dernier moment, c'est de 81 à nos jours.
Oui, alors ce moment MeToo, justement, il bénéficie de tout ce qui s'est passé depuis les années 70, hein, avec le thème de la violence que les féministes des années 70 ont vraiment mis en avant. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est l'importance tout d'un coup du mot même féminisme et du contenu de l'histoire des féminismes et des textes aujourd'hui féministes de ce qui circule. Donc l'importance aussi des réseaux sociaux, l'importance d'une culture qui, notamment par toutes ces formidables jeunes féministes qui ont des podcasts et qui ou une presse ou qui font du relais par les bandes dessinées, par la culture et qui sont presque une contre-culture mais qui ont un succès et un impact énorme aujourd'hui sur des jeunes générations.
Ramener la conscience que ces questions ne sont pas close.
Tout à fait. Et que tout d'un coup, les féminismes sont une réponse à un vécu d'oppression, d'inégalité et d'injustice.
Merci à vous Florence Rochefort d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de l'ouvrage collectif coécrit avec Bibia Pavard et Michel Sancarini-Fournel. Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Et c'est publié aux éditions de La Découverte. On se retrouve demain pour une nouvelle grande table en compagnie de la réalisatrice Chloé Galibert-Lenné et en deuxième partie d'Éric Sadin. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada, Laurence Dutèche-Pérez, Mathieu Bellini, Anouk Delfino et Madeleine Martineux. À la réalisation, Anna Holweck et à la technique, Clara Galivelle. Je vous rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site franceculture.fr.